Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode vous est proposé avec la lumineuse participation de Clément Bruna, Greg Latam, Anthony Corsini, Yann Godot, Loïc Inard, Sébastien Tessot, Targan82, Greg Iwazaru, Bastien, Delph, Skinetic, Cédric HL, Rémi Marié et Thibaut Crével. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par mon camarade des tout premiers temps, à savoir Jeff Clavier qui se joint à nous depuis l'ouest des États-Unis. Comment ça va Jeff? Tu es en forme? Tu es en vacances tu disais, donc tu travailles que de 9h à 1 ou 2h, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, je suis super content de vous rejoindre, parce que ça fait quand même quelques mois que je n'avais pas pu être avec vous. Donc là, je suis au sud du lac Tao et je suis en vacances, ce qui veut dire que je travaille à mi-temps. Et c'est avec plaisir que, pendant mes vacances, je vous rejoins.
Et on disait 190 épisodes, c'est l'épisode 190 là, 2009, on avait commencé tout début 2009 avec toi et Yann, et qui a l'air de bien aller d'ailleurs, mais que d'épisodes 190, faudrait qu'on fasse un truc pour le numéro 200.
Faut qu'on fasse quelque chose pour le numéro 201, il faut absolument que je sois là pour le numéro 200. effectivement, c'est ma réflexion, c'était holy shit, que je ne traduirais pas en français littéral, mais
Oh bah oui, tu sais, des petites natures.
190 épisodes.
Ouais, 104. Bon, pour le 200, on va essayer de réfléchir. Déjà, en septembre, ça fait 10 ans que je fais du podcast, donc j'en parlerai en fin d'émission. Y aura normalement un petit truc qui va se passer. Mais avant ça, quand même, saluons notre...
Et tu n'as pas fait une ride?
Ça, je sais pas. Franchement, 10 ans déjà, c'est un petit peu... Bref, on aura le temps d'en reparler à la fin de l'émission. Mais donc, il faut aussi accueillir Ulrich, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Ulrich Rosier, d'Humanoïde.fr, du réseau Humanoïde. Comment ça va, Ulrich?
Ça va très bien et c'est toujours un plaisir.
Très bien, très bien. Je suis heureux que tu sois avec nous. Et puis donc, on va parler de Pokémon, de Yahoo, la fin de la saga Yahoo, enfin ce reverse spin-off, de la police qui ressuscite les doigts des morts, on va vous en parler, et puis de plein de news et rumeurs. Mais on va se lancer tout de suite avec le sujet qui passionne absolument toute la presse vidéoludique et tech et à peu près tout le monde depuis 3 semaines, c'est Pokémon Go. Alors on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais la folie Pokémon ne s'est pas dédite depuis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent autour de moi et qui en parlent beaucoup. Moi je suis toujours mi figue mi raisin dessus, mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est cette histoire de niveau de l'action, de valeur de l'action de Nintendo qui s'est envolé comme c'est pas permis, avec cet aspect que la réalité de la situation est que Nintendo, la société Nintendo, n'a que très peu à voir avec Pokémon Go. C'est pas très intuitif parce que tout le monde associe Pokémon à Nintendo puisqu'ils ont l'exclusivité de la licence pour les consoles et ils font partie de la société Pokémon Company qui gère et qui produit les jeux Pokémon. Mais en l'occurrence, alors j'explique un petit peu, et puis peut-être que Jeff, tu pourras nous dire comment tu vois ça avec ton œil d'investisseur, mais Niantic est la société qui a créé la Pokémon Go sous licence de la Pokémon Company, dont Nintendo possède un tiers. Et Le truc, c'est que Pokémon, pardon, Nintendo est la seule société de tout ce groupe-là qui est publique. Donc, c'est la seule vers laquelle les investisseurs peuvent se retourner s'ils sentent la puissance de la licence et ils se disent « Ah ben, on va aller acheter quelque chose là-dedans parce que ça fait beaucoup de bruit. » Sauf que on ne sait pas combien Nintendo gagne dans l'histoire, mais visiblement pas beaucoup puisqu'ils ont, comme on en parlait et comme je crois on le disait à l'épisode précédent, ça va pas impacter eux, puisque des jeux Pokémon, ils en font déjà depuis longtemps, des jeux mobiles, ils avaient déjà prévu de se lancer depuis un moment, et c'est pas eux qui ont créé ce jeu-là, donc ça donne aucune indication sur leur capacité à faire un jeu à succès sur mobile. Et donc, ils ont même dû déclarer publiquement que le Pokémon Go, le jeu n'allait
c'est
rien
pas nous,
changer.
C'est pas nous.
Voilà, c'est pas nous et ça va rien changer à nos bénéfices en fin d'année. Donc calmez-vous, l'action. Enfin, c'est sympa que vous achetiez de l'action Nintendo, mais ça va rien changer pour nous. Leur action est montée au-dessus. Enfin, leur valeur boursière est arrivée au-dessus de Sony, ce qui est complètement fou. Et maintenant, elle est redescendue en flèche une fois qu'ils ont déclaré ça. Et c'est normal. Elle reste au-dessus de ce qu'elle était avant l'arrivée Pokémon Go. Alors, la question, donc, justement, Jeff, c'est un emballement du marché ou il y a quelque chose derrière que moi je vois pas ou qu'est-ce qui s'est passé là?
Non, non, c'était effectivement un emballement du marché où il n'y avait pas réellement de compréhension sur qu'est-ce que Nintendo avait fait avec Niantic Labs, qui est la boîte qui a développé Pokémon Go. Et donc, dans l'anticipation, étant donné l'énorme succès sur le très court terme du jeu et de Niantic Labs, tout le monde s'est dit, Nintendo va s'en mettre plein les fouilles. Et donc, plein de gens ont acheté l'action sans savoir véritablement quel allait être le transfert d'argent entre la Pokémon Company, Nintendo et Niantic Labs. Et parce que Nintendo est une boîte publique, ils ont dû se dire, faut peut-être qu'on dise quelque chose là, parce qu'en gros, tout le monde achète notre action, sachant que le seul bénéfice pour nous, en fait, il est double, il faut quand même le comprendre. Un, c'est la Pokémon Company qui va récupérer une partie des royalties de Niantic Labs, et donc ils vont effectivement faire pas mal d'argent, et Nintendo étant un actionnaire au tiers va en bénéficier. Et puis, il y a aussi quand même un espèce de renouveau autour de Pokémon qui fait que les gens vont acheter... je crois que Nintendo a sorti un truc de jeu, une console de jeu avec 30 de leurs jeux les plus... les meilleurs.
Oui, c'est la NES Mini, mais qui a rien à voir avec... Bon, peut-être que les gens s'intéressent à Nintendo, mais effectivement, c'est pas Pokémon spécifiquement, quoi.
Voilà, donc si tu veux, il va y avoir un petit bénéfice marginal, mais ça va rester marginal. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est Niantic Labs qui est, il faut le rappeler, une boîte qui était dans Google... Lorsque Google a mis en place Alphabet, a décidé de la pousser dehors, donc a fait un spin-out. En gros, aujourd'hui, cette boîte-là qui a quand même levé de l'argent de Google, 30 millions, je suis certain que la totalité des venture capitalistes de Silicon Valley sont en train d'essayer d'investir, puisque bon, c'est la boîte qui a eu un succès météorique. Où Apple a annoncé que c'était la boîte qui avait le plus de downloads et qui avait le plus de trafic
de l'histoire de l'App Store.
Pour
la première semaine, oui.
Pour la première semaine, la grosse question, et c'est celle que moi j'ai, c'est quelle va être la rétention. Et il y a eu quelques articles très intéressants sur des gens qui ont fait des produits qui ont explosé comme ça en quelques semaines. Il y avait le CEO de la boîte qui avait fait Draw Something, et en gros il a dit étant donné l'explosion météorique et le fait qu'il n'y a quand même pas énormément de choses à faire une fois qu'on a complété tous les Pokémon, il s'attend à ce que le succès soit un succès fulgurant mais de relativement courte durée.
Ouais. Bah, ils auront fait beaucoup d'argent entre temps, mais moi, c'est ce que je dis aussi depuis un moment, je vois pas les éléments de gameplay qui pourraient faire que les joueurs continuent à jouer à Pokémon Go longtemps. Peut-être qu'ils en rajouteront, mais aujourd'hui, je les vois pas. Et donc, l'ex-CEO de Draw Something serait un très bon pote parce qu'on tomberait d'accord. Mais Ulrich, toi, tu joues pas mal à Pokémon Go. Est-ce que toi, tu vas m'expliquer à quel point vraiment c'est incroyable et que ça va durer, ça va être une valeur sûre sur plusieurs années?
Je sais pas. Moi, je sais que je peux vous donner des chiffres qui sont intéressants sur Frandroid. Ou Numérama, je crois que les audiences c'est à peu près pareil. On a des articles qui ont dépassé les 500 000 visites. C'est 10 fois plus qu'un article classique, quoi. Je sais pas si 500 visiteurs uniques sur un article Pokémon
500 000,
Go,
500 000. Ouais.
500 000, ouais. Sachant que sur Numérama, on en a dû en publier une trentaine, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, on voit
ça,
toutes
ça
les
plusieurs millions de visiteurs uniques, quoi.
Mais toutes les publications du monde sont en train de publier autant d'articles que possible sur Pokémon Go, parce que c'est une folie absolument totale. Mais
comme tu dis, c'est vrai que j'ai écouté tout ce que vous... C'est des débats qu'on a tous les jours à la rédaction, donc c'est hyper intéressant. Moi, je suis un peu plus mitigé dans le sens où j'avais bien suivi ce qu'a fait Niantic Labs, entre autres quand ils étaient chez Google. Ils ont quand même.
Ingress, ouais.
Ouais, Ingress a eu plusieurs mois, voire plusieurs années de travail sur le système, sachant qu'ils ont implémenté la moitié seulement des fonctionnalités d'Ingress dans Pokémon Go. Ils avaient donc construit toute leur base de données de points d'intérêt et pas seulement toute la mécanique de jeu sur un autre jeu avant. Donc c'est quand même assez très très smart de leur part. Et donc je suis plus en train de me dire que ça peut tenir quelques mois, sachant que même le week-end dernier à Comic-Con, ils ont annoncé qu'il va y avoir des évolutions avec des nouveaux Pokémon, des nouveaux éléments de gameplay, etc. Donc ça pourrait être intéressant, par exemple le fait que deux dresseurs puissent peut-être se confronter directement, des choses comme ça, ou échanger des Pokémon. Et il va y avoir des jeux de gameplay, des éléments de gameplay intéressants, mais évidemment ça restera jamais sur les chiffres qu'on atteint aujourd'hui, ça va redescendre. Mais même si ça redescend quoi de moitié ou je sais pas quoi, ça sera déjà tellement impressionnant comme chiffre que ça restera dans les annales les prochains mois. Et moi, ça me dit quelque chose que effectivement Nintendo est pas directement impliqué dedans. Donc effectivement, on voit la spéculation qu'il y a eu autour du cours de bourse de Nintendo et était assez impressionnant d'un point de vue externe. Je pense que d'un point de vue interne, c'est un peu différent. Il y a énormément de spéculation sur les marchés boursiers, donc de ce point de vue-là, ça m'étonne un peu moins. Mais ce que on peut remarquer surtout, c'est que la capacité de Nintendo à avoir des licences hyper hyper fortes. Et donc quand on voit l'investissement qu'ils sont en train de faire sur le mobile, entre autres avec leur partenariat avec la société DNA, si je me trompe pas, on prononce comme ça.
DNA,
ouais. C'est quand même hyper encourageant. Et j'imagine qu'il va y avoir d'autres succès, peut-être qui seront moins importants, mais qui seront déjà parmi les plus beaux succès du mobile qui vont arriver. Et donc c'est aussi ça peut-être qui se cache derrière la spéculation qu'il y a eu autour de l'action de bourse de Nintendo. Les gens se sont dit, oula, Nintendo peut vraiment faire bouger le marché du jeu vidéo mobile. Moi c'est ça.
Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que. Peut-être que les gens se sont juste... Les plans de Nintendo étaient déjà en place sur le mobile depuis longtemps, mais peut-être que les gens se sont réveillés en se disant « Ah oui, il y a Nintendo qui arrive sur mobile aussi, ça pourrait être gros. » Mais ouais, bon, écoute, on
c'est là
on
où
verra.
J'y crois, en tout cas.
Ouais. Bah moi je suis sûr qu'ils peuvent faire des trucs intéressants sur mobile, hein, ça c'est certain. Mais pour moi qui suis ce marché depuis longtemps et toujours, c'est un petit peu genre mais si vous pensiez ça, pourquoi ne pas avoir investi avant? Mais évidemment peut-être que les gens n'y avaient pas pensé avant de voir.
Après c'est un time
Pokémon
to market, hein, tu vois. Tu vois tout ce qu'amène Pokémon Go en termes de technologie. Il y a aussi
Pokémon
un time
Go,
to market.
Mais Pokémon Go, le truc c'est que c'est Pokémon. Très spécifiquement avec un jeu type Ingress. Je suis pas sûr que le truc soit reproductible. Donc peut-être.
Avec quelques gamers et ils me disaient imagine un jeu de plateforme avec du Mario sur mobile qui est gratuit.
Ah non, ça bien sûr. Non mais moi je parle non mais évidemment. Mais moi je parle de spécifiquement le phénomène Pokémon Go et pendant combien de temps est-ce que les gens vont sortir pour aller attraper leur Pokémon et marcher 5 km pour attraper un Pokémon.
La capacité à Niantic, il reste une toute petite équipe, je crois que c'est une centaine de personnes. Même moins dans le monde, ils ont 3 bureaux à New York, en Europe et à Tokyo, je crois. Faut pas, si je me trompe pas. Ça reste une petite équipe, donc ça va être leur capacité maintenant, de par leur expérience sur Ingress, de continuer à développer le jeu.
Bon, on verra.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est Niantic qui a vraiment réalisé la vision de Foursquare, parce qu'initialement, c'était un peu ce qu'ils essayaient de faire. Ils n'ont jamais vraiment réussi à créer cette dynamique de jeu au-dessus d'une couche de géolocalisation. Je pense que Niantic Labs a quelque chose de vraiment intéressant. Ce que je dirais simplement, c'est que quand on regarde les gros succès au niveau des jeux mobiles, que ce soit King,
Supercell ou
Supercell, Rovio, ils ont eu du succès initial, mais ça fait quand même vachement longtemps qu'ils ont du mal sur la partie jeu. Ils ont vraiment étendu leur marque.
Ah, complètement.
Avec,
pareil avec
King.
Comme
ça, ça dure quoi C'est 24 mois les grosses licences marche, comme ça ou je me trompe C'est 24 non, mois, je crois.
C'est des années. C'est ça peut durer des années. Mais Nintendo, je veux dire, ça fait quand même des années qu'ils n'ont rien fait au niveau mobile. Donc, on parle de Nintendo dans le cadre d'une licence, ce qui est intéressant, mais c'est pas eux qui ont inventé la dynamique de jeu, c'est pas eux qui ont créé l'IP, et donc il y a quand même une grosse question sur leur capacité à tirer parti de ces assets qu'ils avaient créés depuis une trentaine d'années, quoi.
Et c'est ça le truc que les gens ne réalisent pas forcément. Bon, c'est sûr qu'il y a un potentiel, c'est indéniable, et il était là depuis longtemps, mais c'est pas eux qui ont fait le jeu à succès sur mobile, c'est Niantic. Et eux, ce qu'ils ont fait sur mobile, c'est Miitomo, qui est évidemment, enfin, qui est même pas un jeu pour moi, c'était vraiment un test d'infrastructure pour Nintendo. Mmh. Donc, c'est un petit peu injuste si on se dit, ah bah, ils ont fait Miitomo, ça s'est planté, donc ils savent pas faire du mobile. Mais il n'empêche, ils n'ont encore rien fait ils n'ont pas montré qu'ils comprenaient le marché mobile. Maintenant, en même temps, ce qu'on peut se dire aussi, et ce qui est pas faux, c'est que si on attend qu'ils aient fait un truc à succès pour commencer à investir, bah, ça sera trop tard. Donc, peut-être
là,
que les gens
se disent... c'est exactement ça. La spéculation autour de ça. Là, il y a un jeu, je crois, autour de Animal Crossing qui va arriver. En tout cas, il y a deux titres.
Il y a Animal Crossing et, Fire Emblem. Non, pas Fire Emblem, l'autre. Si, Fire Emblem, je sais plus. Enfin, un jeu de stratégie.
Donc, il y a du potentiel,
Fire Emblem,
quand même.
Capcom, non?
Ouais. En tout cas, si je devais parier sur un éditeur de jeux mobile, je pense qu'il serait quand même dans ma liste.
oui, non, c'est vrai. Parlons un peu d'Yahoo, tiens. On en a beaucoup parlé pendant quelques mois, et puis au bout d'un moment, j'ai été un petit peu fatigué par les spéculations sur la potentielle vente de Yahoo, et je me suis dit, on en parlera quand ça sera effectivement fait. Et ben là, ça y est, c'est signé. Yahoo se vend à Verizon, qui est un gros groupe de communication et téléphonie aux États-Unis. Et alors, en fait, je dis Yahoo se vend à Verizon, c'est pas tout à fait exact, parce que si vous vous souvenez, il y a cette histoire de reverse spin-off. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le reverse spin-off? C'est le fait de une astuce pour Yahoo de pouvoir capitaliser sur leur investissement sur Alibaba en ne revendant pas directement l'investissement sur Alibaba, qui leur coûterait beaucoup d'argent en taxes. Si je ne m'abuse, Jeff, tu pourrais me dire si
yep,
tu pourrais me dire
ça,
si
oui.
Ça. Ouais. Le truc, c'est que ils ont fait tellement d'argent sur leur investissement sur Alibaba que s'ils vendaient Alibaba à quelqu'un, eh ben ça, ils feraient une grosse plus-value et donc ça leur coûterait beaucoup de taxes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent Alibaba, ils vendent tout le reste à peu de choses près, hein. Ils vendent tout le reste à Verizon et donc la plus-value d'Alibaba pour les actionnaires de Yahoo est conservée sans cette énorme taxe qu'ils auraient dû payer. Verizon l'a a acheté. Yahoo pour grossir son empire média en fait et pour acquérir beaucoup d'utilisateurs mobiles. En gros, ils veulent de la pub, quoi. Ils ont du contenu, ils ont des utilisateurs, c'est de la pub. Et puis l'autre question, c'est que va faire Marissa Mayer, qui était venue de Google pour sauver Yahoo. Je dis que Pokémon est la sensation de l'été. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est Marissa Mayer, sa sensation de l'été, c'est Yahoo, je peux enfin partir de cette boîte, j'en avais trop marre, quoi. Je pense. Bon, plaisanterie lamentable, je m'excuse. Mais c'est un bon résumé, Jeff, de ce qui s'est passé là. C'est un gros événement, ce truc.
Bah oui, c'est un gros événement puisque c'est la fin de Yahoo. Et si tu lis, enfin, ce matin, je disais en fait. annonces des ex-Yahoo, où en gros, la litanie, c'est « j'ai rejoint Yahoo, j'étais employé numéro 20, 100, 50 », c'est tous des copains à moi, et en gros, ils disent « voilà ce que j'ai fait chez Yahoo, et voilà pourquoi c'est vraiment dommage que Marissa n'ait pas réussi son turnaround », donc là, ce qu'elle a essayé de faire en 3 ans, où en gros, le board qu'il a mis en place a espéré qu'elle aurait la capacité à réinventer Yahoo, et en gros, elle n'a pas réussi, quoi. Et le fait que Yahoo se vende pour moins de 5 milliards, alors que je crois au maximum, il valait quelque chose comme 220 milliards, c'est la fin d'une époque, donc c'est assez triste parce qu'on se demande ce que Verizon et AOL, puisqu'en fait c'est Tim Armstrong, le CEO de AOL qui va a priori récupérer Yahoo, va faire avec cet ensemble de propriétés qui sont encore énormément utilisées, et puis surtout c'est la fin d'une époque où il y a encore quelques années, c'était une des boîtes principales du web. Et puis, en gros, Marissa n'a pas fait grand-chose. Elle a fait pas mal d'acquisitions qui n'ont pas amené grand-chose. Et puis, aujourd'hui, en gros, avant le fonds de commerce, quoi. Et effectivement, je pense que je ne sais pas si elle est mécontente de s'en sortir. Et c'est encore pas clair de qu'est-ce qui va se passer une fois que les assets de Yahoo vont être vendus à Verizon avec tout ce qui est Alibaba, l'IP, tout ce qui est les propriétés real estate qui vont rester. En gros, il y a quelqu'un qui va devoir gérer ça, mais clairement, c'est la fin d'une époque et c'est un peu triste.
Oui. C'est sûr que Marissa Mayer a dit qu'elle allait rester, hein, au moins pour un petit moment après la vente. Elle part pas une fois que la vente est faite, mais je la vois pas rester longtemps. Je veux dire, sur Yahoo, effectivement, qui va, je sais plus s'il garde le nom ou pas, mais elle va pas rester gérer un morceau d'Alibaba, quelques franchises et puis Yahoo Japan.
C'est... Et puis 3-4 patentes.
Ouais,
en plus, je pense qu'elle va passer, par la case départ et puis elle va toucher son chèque. Hein, parce que
c'est 57 millions, je crois.
Pas exactement combien. Ouais, c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars qu'elle va récupérer. Bon, c'est pas qu'elle était dans le besoin, hein, après avoir passé une dizaine d'années chez Google. Mais effectivement, ce serait logique de penser qu'elle a fait son temps et puis elle va partir.
Ulrich, une réflexion sur la fin de Yahoo. Est-ce que tu allais faire tes recherches sur Yahoo à l'époque en 1980, combien, 14, 15?
Ouais, avec un site qui était tout simple à l'époque. Non, mais écoute, Yahoo, c'est vrai que d'un point de vue français, aujourd'hui, on avait l'impression que c'était plus un service américain. Parce que la part de marché en France, j'ai l'impression qu'elle était sur à peu près quasiment tous les services un peu ridicules, mais aux États-Unis ça restait quand même loin d'être négligeable, hein, si je me trompe pas.
Oui, c'est vrai qu'en France on a une prédominance énorme de Google, mais c'est pas le cas. Enfin, si, ils sont majoritaires aux États-Unis, mais Yahoo garde.
Non, je crois qu'il y a une part de marché à deux chiffres.
Mais on pense beaucoup au moteur de recherche, qui est important bien sûr, parce que pour ceux qui s'en souviennent pas peut-être, et c'est vrai que c'était il y a 20 ans, donc ça fait vraiment longtemps, mais Yahoo était un annuaire du web et fonctionnait vraiment avec l'idée de répertorier à la main sur chaque sujet les sites intéressants qui couvraient ce sujet. Et l'idée même aujourd'hui paraît ridicule, parce qu'il y en a tellement qu'évidemment on peut pas, mais la grosse disruption qui est arrivée dans ce domaine, c'était évidemment Google en 97-98 qui a automatisé ce processus. Mais à l'époque, au début du web, dans les 5 premières années, il n'était pas du tout ridicule de se dire qu'on allait référencer à la main les sites intéressants sur les sujets. Donc,
c'est fou quand on te rappelle des guides pour le SEO de son site à l'époque où on te disait d'inscrire ton site sur des guides. Moi, c'est en fait ce que ça m'a rappelé. C'est pas mal de choses sur l'actualité de l'informatique avec les rumeurs de rachat d'un côté et de l'autre. Quand ils ont failli racheter Google au début, puis après ils ont encore failli racheter Google, ça s'est joué à quelques milliards près. Et puis finalement, ils ont failli être rachetés par Microsoft. Ça s'est joué à quelques milliards près. Et tu dis, heureusement que Microsoft l'a pas racheté.
C'est un commentaire d'un copain qui était chez Yahoo qui disait, si Satya fait une, une Happy Dance que Ballmer n'ait pas racheté pour 46 milliards, hein, parce que c'était quand même le chiffre qu'ils avaient proposé à l'époque. Et c'est vrai, comme tu le dis, Ulrich, Google a essayé de se vendre pour à Yahoo pour $1 million, du temps où ça s'appelait encore Backrub.
C'était un an après la formation, je crois.
Voilà, c'est ça. Et en fait, Yahoo a dit non, c'est beaucoup trop cher. on vous filera, je sais pas. Et objectivement, c'est sûr que c'est pas évident qu'Yahoo en aurait fait quelque chose.
Non. Peut-être s'ils avaient réussi à placer les deux cofondateurs sur quelque des postes part, de manager ou de stratégie, mais encore, ils seraient partis, je pense.
Ouais. Et le truc qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui Yahoo, c'est plus du tout le moteur de recherche. Je veux dire, il y a quand même le moteur de recherche qui est d'ailleurs, je crois que c'est Bing qui est derrière, ouais, en back-end encore aujourd'hui. Mais Yahoo, c'est surtout les propriétés de contenu. Hein, c'est des magazines en ligne,
c'est
Yahoo
média,
Mail qui est beaucoup utilisé. Voilà, donc la recherche, ils ont complètement, eux-mêmes, ils ont un petit peu lâché l'affaire au niveau de l'infrastructure, mais ouais.
Non, mais ça reste une énorme régie aux États-Unis, fournisseur de contenu. Enfin, c'est.
Oui, bah 5 milliards, c'est pas rien non plus, hein. Mais bon, c'est sûr que par rapport à ce que c'était à l'époque.
Oui, et puis bon, il y a pas que. En plus, il y a même pas que les parts d'Alibaba. T'as aussi. Je crois que t'as pas mal de trésorerie d'un côté. T'as des brevets. Enfin, t'as de la participation dans pas mal de. T'as tout ce qui est. On appelle le portefeuille Excalibur, si je me rappelle bien. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ces 5 milliards.
Ça n'a pas été racheté. Hein. Oui, c'est-à-dire que les 5 milliards, c'est vraiment les activités business, donc la partie operating de Yahoo. Et le reste, en fait, ça va rester derrière. Il y a une question sur le nom. Je pense que je serais surpris que la marque Yahoo reste derrière. Donc, on va voir un peu dans les quelques semaines qui viennent comment tout ça, ça va se partager. Mais ouais. ça devient en fait une holding financière, quoi.
D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un fait le calcul, mais ça se trouve, les 5 milliards, on peut très bien les appliquer à l'audience de Yahoo actuellement, et ça pourrait même rentrer dans les chiffres des dernières acquisitions de médias qu'il y a eu. Je sais pas si quelqu'un s'amusera à faire ça, mais bon.
Ouais, je suis sûr que quelqu'un s'amusera à faire ça, mais oui, moi je propose pour ce qui reste derrière de l'appeler un truc genre youpi, wouhou, tu vois, ça serait. mais oui, au final, moi ce qui reste, on peut repenser à Yahoo de la belle époque et être un petit peu triste. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est le fait que Marissa Mayer n'ait pas réussi à retourner la société, parce que elle a fait quelques acquisitions, comme tu le disais, Jeff, et puis elle en a pas fait grand chose. Elle a acheté Tumblr, elle a acheté, je sais plus, quelques autres
c'est
trucs. Et puis elle en a pas fait grand chose, et il y avait un tel espoir que Marissa Mayer, qui sortait de Google, réussisse à. Oh, il y avait un vrai affect pour certaines marques de Yahoo, et pas que Yahoo. Il y avait Flickr, par exemple, qui était magnifique à l'époque, dont elle n'a rien fait, et peut-être qu'elle pouvait pas faire quelque chose. Peut-être qu'il y avait pas de dynamique. Peut-être qu'il y avait même une administration interne qui était difficile à gérer et qu'elle a pas réussi à implémenter les changements qu'elle voulait implémenter. Ou on
Mais
sait
c'est
pas.
Beaucoup battu, hein, de ce que j'ai vu.
Ouais.
Moi, bon, c'est un petit peu j'avoue dommage. Que ce matin, j'ai eu une pensée pour Montebourg, mais bon.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Montebourg?
Bah, l'histoire de Dailymotion.
Ah oui, bon, oui, ça.
Qu'est-ce qui serait passé si finalement Dailymotion est sûrement mort avant, mais bon, Yahoo avait mis la main sur Dailymotion.
je crois que ça aurait quand même été. Enfin, Dailymotion aujourd'hui n'est pas particulièrement en grande
non,
forme. J'ai l'impression
que c'est pire qu'avant. Hein. Non, mais moi j'en parlais avec quelqu'un ce midi et on se disait Dailymotion est sûrement décédé avant Yahoo, mais bon.
Bon, parlons.
C'est
de...
pas vraiment.
Parlons de la police et de doigts imprimés en 3D. C'est une histoire vraiment intéressante qui a été publiée il y a quelques jours à peine sur le fait que la police a demandé à un laboratoire d'impression 3D. On parlait de l'impression 3D la dernière fois. Et d'ailleurs, je voulais dire, il y a plein de gens qui sont venus à la rescousse de l'impression 3D en disant « Ah, mais non, on l'utilise pour ci, pour ça », quand je disais que il y avait un sujet sur le fait que l'impression 3D avait pas l'air de prendre. Et bon, je comprends qu'il y a toujours des utilisations spécifiques de plein de trucs et qu'il y a toujours des gens qui l'utilisent. Et comme quand je dis le Ingress n'a pas le succès d'un grand jeu vidéo hyper populaire, machin, je comprends qu'il y a une communauté. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais si, Ingress, c'est sympa pour ci, pour ça. » Bien sûr. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Mais Donc, la police américaine a demandé à un laboratoire d'impression 3D de recréer le doigt d'un homme qui était mort pour débloquer son téléphone. Et bien sûr, ça pose des questions absolument énormes sur la légalité de la chose, sur la question de la protection des données privées, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que la personne en question, la personne qui est morte, dont il voulait débloquer le téléphone, c'était une victime. Et donc, il y a fort à parier que la victime, entre guillemets, bénéficierait d'informations supplémentaires sur sa vie qui pourraient déterminer peut-être aider l'enquête. Et le truc, c'est que c'est ce type de demande est normalement possible. Un juge peut obliger quelqu'un à débloquer un téléphone avec son doigt parce que c'est considéré comme une clé, c'est-à-dire un objet, et pas comme quelque chose qu'il sait, qui est protégé par un amendement de la Constitution américaine, comme le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est-à-dire que si tu es présumé coupable et que est-ce que tu as tué machin, tu as le droit de dire j'invoque mon droit à ne pas m'auto-incriminer, je réponds pas, donc vous saurez pas. Et c'est un droit constitutionnel, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et donc ce droit s'applique à un mot de passe. On ne peut pas vous obliger à donner un mot de passe. Par contre, il ne s'applique pas au doigt qui va débloquer votre téléphone. Et donc là, non seulement ils auraient eu le droit, a priori, de toute façon, de faire imprimer le doigt de la victime, parce que légalement, ils ont le droit de le demander, mais en plus, c'était la victime et pas un criminel, donc ça n'aurait sans doute pas posé de problème. Mais c'est hyper intéressant pour moi, cette idée de se dire que la police a le droit, même si vous savez pas où ils sont, vous avez pas, et surtout avec le combat entre le FBI et Apple, hein, ça vient dans toutes ces, ça fait partie de toute cette réflexion, que la police pourrait faire recréer un doigt en 3D pour faire débloquer un téléphone, c'est une idée assez fascinante pour moi. Je sais pas si je suis le seul, mais.
Bah, désolé, j'ai réagi premier. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que quand j'ai eu cette info, j'ai essayé de comprendre à partir de quoi ils voulaient recréer l'empreinte. Ils ont la victime, et tu sais que les empreintes digitales après la mort, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis posé ces vieilles questions de science.
Bah peut-être justement
ça à partir d'une copie, ou est-ce qu'ils faisaient ça à partir du vrai doigt de la victime.
C'est une bonne question. Oui, peut-être à partir du doigt.
C'est mon côté un peu glauque.
Ils l'impriment différemment parce qu'effectivement le lecteur d'empreintes digitales sur les téléphones fonctionne, sans doute qu'il ne fonctionne pas avec le vrai doigt, hein, et le lecteur voit le relief du doigt et de l'empreinte. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils doivent le faire
Il y a le côté, ouais, je crois qu'il y a une histoire de conductivité électrique qu'on peut recréer avec de l'encre.
Ils expliquaient que c'était à partir d'empreintes 2D, puisque la victime en question avait été fichée par la police. Okay. Et en gros, ils allaient recréer les empreintes 3D à partir de l'empreinte 2D, ce qui a une certaine complexité, parce qu'effectivement, il faut recréer la partie 3D à partir d'un truc projeté.
Du coup, c'est là où il y a de l'incertitude, alors. Okay.
Voilà, mais d'un point de vue technologie, moi j'ai vu quelques startups qui développent donc des imprimantes 3D et ils utilisent en fait alors je sais pas comment on dit reagents en français,
mais
en gros c'est des composants, des matériaux qui permettent la boîte que j'avais vue par exemple c'était pour recréer des bouts de tissu humain, et donc en l'occurrence ils reconstruisaient soit un bout de foie, soit ils pouvaient reconstruire un bout d'oreille et des choses comme ça
avec une imprimante 3D en fait.
Avec c'est une imprimante spéciale qui va en gros recréer des structures à partir de ce que tu as dans tes composants de peau. Et donc, c'est pas vraiment super étonnant qu'on arrive à faire ça.
Ouais, effectivement, il y a peut-être
des choses. Je crois que c'est Meshable qui a estimé le coût de l'opération à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je me suis dit quand même. Je sais pas, je connais pas les fins fonds de l'aile de l'histoire, mais bon.
Oui, alors c'est sans doute pas un petit doigt en plastique qu'ils vont imprimer, hein, a priori.
Ça paraît assez cher, parce que l'imprimante en question que moi j'ai vu, donc c'est une boîte qui est basée à Philadelphie qui construit des imprimantes 3D pour les tissus. Si je me rappelle bien, aujourd'hui l'imprimante, si tu veux l'acheter, c'est du genre entre 20 et 50 000 dollars. Et après, les reagents, donc les composants, sont pas super chers. Donc peut-être qu'il y a des choses très particulières parce que ils ont besoin de faire des modèles 3D, etc., etc. Mais c'est une technologie qui va devenir quasiment accessible aux consommateurs.
Ouais, on n'est pas loin de ce type de prix. Ceci dit, les téléphones généralement, quand on l'a pas débloqué avec le doigt pendant plus de 48 heures, ils demandent le code. Donc, enfin, ça se trouve, ils ont le code, la police, mais ils risquent de le débloquer avec le doigt et puis d'avoir.
Mais après, c'est de la recherche, hein, tu sais.
Ils avaient le code, ils pourraient le débloquer.
Bah oui, c'est vrai, t'as raison, je suis bête.
Non, mais après, c'est de la recherche. Tu vois un petit peu le conflit qu'il y a eu entre le FBI et Apple.
Bien sûr.
On sait très bien qu'ils pouvaient le faire derrière. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire avancer les débats et.
Ouais, le FBI contre voter, Apple, oui. Là, ça fait rien avancer du tout. C'était juste.
Bah si, parce que ça se trouve derrière.
Ça fait un précédent.
C'est juste de la jurisprudence, tu vois. C'est un précédent qui fait que dans les prochaines affaires, ça va être simplifié.
Peut-être, ouais. Bon, bah voilà pour les trois sujets que je voulais évoquer un petit peu plus longuement aujourd'hui. On va continuer avec des news et des rumeurs diverses sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. D'abord, Jean Coco sur le Reddit du Rendez-vous Tech, il a été hyper actif ces dernières 2 semaines. Il nous signale 2 choses. D'une part, la demande de Consumer Reports, qui est une énorme boîte aux États-Unis, qui est en fait un petit peu l'équivalent de 60 millions de consommateurs pour nous, qui a évoqué la question de l'autopilote de la Tesla avec différentes demandes. Et l'une des demandes, bon, il y en avait qui étaient plus ou moins raisonnables, hein, mais l'une des demandes, c'était de demander que la fonction autopilote ne s'appelle pas autopilote parce qu'elle est trompeuse. Le nom est trompeur, et c'est vrai que les avions, ils ont l'autopilote et c'est pas un vrai autopilote, mais il n'empêche, pour le commun des mortels, peut-être que ça serait pas mal de changer un petit peu le nom. C'est la demande que j'avais trouvée relativement raisonnable. Et puis l'autre truc que Jean Coco nous a envoyé, c'était une lettre qui a été partagée par Elon Musk d'un de ses acheteurs de voitures Tesla, qui témoignait du fait que la voiture avait sans doute sauvé la vie d'un piéton, ou en tout cas avait sans doute évité une collision avec un piéton, parce qu'elle l'avait vu dans des conditions de route qui étaient très mauvaises, et la voiture l'avait vu et avait freiné très violemment et très certainement que le conducteur, lui, n'aurait même pas eu le temps de le voir. Et donc, c'est peut-être, dans toutes nos conversations sur ces sujets, c'est vrai que peut-être que la voiture a provoqué un accident pour différentes raisons, et c'est important d'en parler et de le comprendre pour faire en sorte que d'améliorer les fonctionnalités d'autopilote. Mais peut-être qu'on a un petit peu oublié aussi la possibilité que l'autopilote avait peut-être aidé à éviter des accidents également, chose dont évidemment on ne parle pas, parce que quand une voiture évite un accident, bah on ne sait pas, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'accident, donc on va pas en parler. Donc j'ai trouvé la chose importante et intéressante à signaler également. Vous savez, hein, comment ça marche sur les news et rumeurs, vous m'arrêtez quand vous avez un sujet qui vous intéresse ou un truc à ajouter.
Mais c'est que Tesla, on en a tellement parlé récemment que j'ai un peu l'overdose.
C'est vrai,
sur le mois
je comprends.
Je me garde pour le mois d'août maintenant.
Eh ben écoute, tu seras heureux que je parle de Microsoft alors. Microsoft qui a admis qu'il n'aurait pas Windows 10 installé sur 1 milliard d'appareils d'ici mi-2018 comme il l'avait précédemment promis. C'est pas hyper surprenant, hein. C'est peut-être dû au non-succès du Windows Phone, très certainement, et peut-être un petit peu la Xbox One qui prend pas autant qu'il l'espérait. Mais par contre, bonne nouvelle tout de même, Windows 10 a enfin dépassé Windows 7 en France.
En France,
ils ont plus de 30% de part de marché avec Windows 10. C'est la joie pour Microsoft. Et enfin, pour signaler que l'anniversary update de Windows 10 arrive comme prévu dans quelques jours. Je crois que c'est le 2 août, si je ne me
trompe. Et c'est le jour du lancement de la Xbox One S aussi. Et bon, je ne sais pas s'il y a une coïncidence, mais bon. Moi, oui. j'ai précommandé pour la tester. Alors, j'ai jamais été Xbox. Je ne sais pas pourquoi, en fait.
D'accord. Bah, écoute,
c'est pour rattraper mes vacances. J'ai l'impression que je n'ai pas eu le temps de prendre.
T'inquiète pas, si elle ne te plaît pas, tu pourras acheter la Xbox One Scorpio dans un an qui sera
et
plus
puis dans tous les cas j'ai un mois chez Amazon. Non, faut pas en abuser, mais bon, c'est toujours pratique.
D'accord. Donc voilà pour Microsoft, mine de rien, Windows 10 continue à bien se porter. Et puis toujours chez Microsoft et avec Windows 10, la CNIL a envoyé une lettre assez sévère à Microsoft, et à vrai dire c'était une lettre publique, avec des deux griefs qu'ils ont exprimés, à savoir la... Alors attendez que je retrouve mes notes. Ah non, c'était surtout la collecte de données sauvages qui était critiquée pour Windows 10, avec une demande qui était... Enfin, c'est très compliqué cette histoire de collecte de données sauvages chez Microsoft. C'est sûr qu'il y a des données qui sont collectées. Est-ce qu'on peut dire que c'est des données sauvages? C'est vraiment compliqué. Et il y a aussi une demande sur le fait de conserver les données des utilisateurs en Europe, puisque le Safe Harbor, qui était ce droit d'échange de données entre les États-Unis et l'Europe, a été invalidé, qui est surprenante parce que il y a une législation qui est en cours de rédaction et d'implémentation, qui est le Privacy Shield, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui va venir remplacer le Safe Harbor, qui sera implémenté dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, Microsoft a répondu en disant qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec la CNIL pour résoudre les problèmes de données sauvages. Et bon, s'il y a de la collecte de données sauvages, effectivement, il faudra le corriger. Là, je sais que certains d'entre vous bouent de frustration et d'énervement parce qu'ils se disent « Mais évidemment qu'il y a de la collecte de données sauvages sur Windows 10. Comment peux-tu prétendre qu'il n'y en a pas ?» Encore une fois, ce problème est beaucoup plus compliqué que certains voudraient vous le faire croire. Des deux côtés de l'argumentation, que ce soit « Oui, il y en a » ou « Non, il n'y en a pas », mais bon. Voilà, la CNIL fait son travail et si jamais effectivement c'est un gros problème, je suis heureux que la CNIL puisse mettre le holà. Pour le Safe Harbor, par contre, je suis moins convaincu parce que effectivement il y a cette nouvelle réglementation qui est en cours de, enfin qui a été approuvée par toutes les CNIL européennes, dont la CNIL française. Donc ça c'est un petit peu bizarre comme demande. Mais Ulrich, t'as une opinion sur cette histoire de collecte de données de Windows 10?
L'aspect politique, juridique, etc. Intéresse énormément Julien Champeau chez Numérama. J'avoue que c'est un peu moins intéressant pour moi. J'ai plus l'approche à machine learning, etc. Chatbot, etc. Cortana qui m'intéresse, où je comprends très bien Microsoft, les besoins de Microsoft en termes de données. Et voilà, j'ai pas plus d'avis que ça. C'est vrai que je trouve ça très intéressant que la CNIL, ce que fait la CNIL, mais j'ai pas. Non, désolé, j'ai pas plus.
Non,
on peut
c'est...
parler de chatbot ou de machine learning pendant des heures, mais c'est vrai que l'aspect plus jurisprudence, etc. Enfin, l'aspect juridique m'intéresse un peu moins.
Mais en fait, c'est de là que vient tout le problème, à mon sens. C'est que, d'après ce que je comprends du souci, et je suis sûr que des gens comme Mika, qui traîne pas mal dans le Reddit, viendra m'expliquer en quoi j'ai tort, mais...
En fait, c'est plus ce souci de transparence. Je sais pas si t'avais lu le dernier dossier de Canard PC sur les drivers Nvidia, par exemple.
Je crois pas l'avoir lu, celui-là.
Ok, non. C'est vraiment un dossier qu'il faut lire parce que Canard PC a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. Même Nvidia, dans ses drivers, récupère des données et des choses qu'on ne peut même pas...
On
peut pas imaginer
on
finalement
pas ce
les données qu'ils arrivent
à
récupérer. Oui. Ils ont réussi un petit peu, on appelle ça sniffer en développement, tu vois, d'un point de vue technique. Ils ont réussi à comprendre un petit peu ce que récupère Nvidia et c'est des choses vraiment, et tu sens qu'il y a vraiment une différence de politique entre les éditeurs, quoi. Ils ont même comparé GOG avec Steam, etc. Et tu sens vraiment qu'il y a des philosophies différentes entre les éditeurs. Et c'est important aussi de connaître ça. Et ça, évidemment, je pense que c'est important de le connaître. Après, toute l'histoire de différents organismes européens, français, etc., etc., qui essayent de gérer ces affaires-là, je trouve ça assez complexe quand même.
Mais bon. Bah, je dirais que ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'on sache, c'est-à-dire que si Microsoft dit dans ses conditions d'utilisation pour Windows 10, nous récupérons des données sur votre utilisation de telle et telle application, de cette manière, eh ben, il faudrait pas qu'il récupère des données sur une autre application qui n'était pas incluse dans le contrat d'utilisation, tu vois. Mais le problème, c'est que le problème intervient, à mon sens, quand il y a un contrat d'utilisation qui est tellement vague que les gens qui sont pour la protection de la vie privée de cette manière vont dire « Ah bah oui, mais là, on sait pas trop. » Mais oui, mais les gens qui l'utilisent ont quand même dit qu'ils étaient d'accord pour accepter ces conditions d'utilisation vagues. Mais en même temps, la part de marché de Microsoft sur les desktops est tellement énorme que de fait, on n'a pas effectivement le choix. Donc peut-être qu'il faudrait en savoir un petit peu plus. Et c'est en ce sens que je disais, je suis content que la CNIL fasse son travail et qu'il lève le doigt et qu'il siffle dans leur sifflet d'arbitre et qu'ils disent une seconde, Microsoft, là, qu'est-ce qui se passe ici ? Maintenant, je suis pas convaincu que, comme le voudraient certains autres, ça immédiatement provoque un changement radical de la manière dont Microsoft collecte ses données. Peut-être que ça va changer les conditions d'utilisation. Peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi ils collectent certaines données, etc. Donc,
ouais, effectivement, c'est plus de la transparence. Je sais que ces sociétés ont besoin de ces données-là pour parce que ça valorise leurs produits, leur entreprise.
Non, et puis tu parlais de Cortana, de machine learning,
Cortana,
tout ça.
Cortana, de... Mais tu sais que Google, par exemple, est un très mauvais élève sur Android. J'ai beau être un pro Android, Apple est beaucoup plus transparent sur ces pratiques-là. C'est évident. C'est pas moi qui le dis. C'est même des analystes et des journalistes qui ont fait un gros travail dessus qui le disent. Et c'est quand même frustrant en 2016 de se dire qu'on arrive que ça va être encore plus problématique dans les années qui suivent, je sais pas. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon.
La Commission européenne a aussi levé des accusations contre Google pour deux éléments. Il y a le service de comparaison de shopping qui est considéré comme un abus de position dominante en ce sens que ils proposent leur outil de comparaison de shopping et de fait ça exclut du marché d'autres sociétés qui pourraient fournir un service similaire. Et ils ont aussi un problème avec les contrats AdSense qui sont entre guillemets exclusifs, c'est-à-dire qu'ils passent des contrats avec certains éditeurs de contenu qui exigent que s'ils utilisent AdSense, ils n'utilisent que AdSense.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ces deux problèmes ne sont pas des problèmes si la société n'a pas une position dominante. Or, on le sait et on le disait tout à l'heure, Google, dans le domaine des moteurs de recherche, a une position extrêmement dominante en Europe sur les moteurs de recherche. Ils sont à plus de 90% de part de marché. Et du coup, s'ils glissent dans leur moteur de recherche d'autres services, même si ça peut paraître injuste de se dire « Ah bah oui, mais ils sont juste en train de faire un moteur de shopping, machin », Bah oui, mais c'est du fait de la position dominante. C'est le même problème qu'on avait avec Windows, avec Windows à l'époque où il y a eu la question sur le Windows Media Player ou sur Internet Explorer qui était inclus dans le système d'exploitation et qui posait un problème parce que le système d'exploitation était partout. Mais pardon, Ulrich, je t'ai pas laissé parler.
Non, désolé, c'est moi qui t'ai coupé. Google Shopping, c'est quand même assez fou. Je me demande si quelqu'un a calculé les conséquences qu'ont eu Google Shopping sur tout le secteur, même sur le marché français. Je ne sais pas si tu imagines le nombre de médias que ça a tué. Et si, par exemple, nous, on a réussi à racheter Numérama, c'est grâce à Google Shopping. Une grosse partie des revenus de Numérama était de la comparaison de prix. Lorsque Google a annoncé son Google Shopping, a lancé son Google Shopping, ça a fait fondre les revenus qui étaient liés à la comparaison, tout ce qui est comparateur de prix. Et c'est pas seulement Numérama, c'est une très grosse majorité de médiathèques, par exemple en France. Et je parle que du marché des médiathèques.
Mais en même temps, si alors je me retourne et je vois l'autre côté de l'histoire. La mission de Google est d'organiser le monde entier et que effectivement il propose un service qui est plus efficace, plus pratique et plus qui bénéficie.
Je pense pas qu'il soit plus efficace. Je pense qu'il a juste, il est juste à deux clics de moins que les autres. Du fait qu'il soit dans la barre d'adresse, quoi.
Quel est le regard que vous avez des États-Unis sur ce genre de pratique et ce genre de considération des abus de position dominante, Jeff? C'est un truc qui pourrait se passer aux US, un truc comme ça?
Bah, et toujours, oui, tu dois toujours regarder s'il y a une position de monopole, s'il y a des pratiques anti-compétitives. Quand tu vas acheter une boîte, tu vas devoir passer au travers d'une validation anti-compétitive qui vérifie que tu n'es pas en train de créer un monopole. Après, il y a des monopoles de fait, donc c'est toujours ça va. En gros, au fur et à mesure où tu grossis, ça va limiter ta capacité à faire des grosses acquisitions. Et si jamais tu commences à pousser tes compétiteurs en dehors du marché, ça va poser problème. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment faire des choses extrêmes pour que la législation vienne contre toi, quoi.
Est-ce qu'un truc comme une part de marché de 90% de Google ou de quelqu'un d'autre, comme on a en Europe, tu crois que ça provoquerait ce genre de scrutin? Est-ce que les autorités scruteraient autant Google s'ils avaient ces 90% de part de marché et puis tellement de services qu'on connaît tous ici?
Bah, ils ont une énorme part de marché, effectivement.
Ils sont à 60, je crois, 60, enfin,
ce qui est quand même une énorme part de marché. Ouais. Mais bon, derrière, tu vas avoir des gros développements du côté Facebook. Donc, tu as toujours eu un compétiteur qui était crédible, qui a empêché Google d'embarquer tout le marché, quoi. Mais c'est vrai que s'ils essayaient de racheter quelqu'un pour gagner, tu vois, ne serait-ce que 10 ou 20% de parts de marché en plus, ils auraient intérêt à s'expliquer comment est-ce que ça ne va pas créer une situation de monopole.
Ouais, intéressant. Et justement, puisqu'on est aux États-Unis...
J'avais une question oui, par rapport à Microsoft. Donc, il y a eu la CNIL à propos de ces histoires de collection de données, mais est-ce qu'il y a eu en fait des plaintes en France sur leur tactique extrêmement agressive de marketing, où en gros ils te forçaient la main à downloader Windows 10, même si ton PC est infoutu de le tourner, quoi. Parce que c'est ce qui arrivait à mon beau-père. À chaque fois que je bloque sur la machine de ma mère, il faut que je vire ce truc, quoi. Donc c'était une véritable saloperie, ce qui est pas franchement l'approche typique de Microsoft. Donc c'était assez surprenant.
Là, ça va être fini. Je crois que c'était pendant un an et ça se termine dans 2 jours, je crois. Donc enfin, tout sera tranquille. Mais alors, il y a eu officiellement des plaintes déposées auprès des tribunaux. Je suis pas sûr, je crois pas. Mais par contre, des plaintes exprimées sur les réseaux sociaux et autour de nous, ça, il y en a eu beaucoup. Oui, c'est certain. encore une fois, moi, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais le problème est tellement plus compliqué que simplement ils sont pénibles à nous l'imposer. C'est aussi les questions de mettre tout le monde sur le même OS et puis de le maintenir à jour, etc. Mais bon, ouais. On en a déjà parlé, mais L'IFF, donc l'Electronic Frontier Foundation, a assigné en justice le gouvernement américain pour les éléments du Digital Millennium Copyright Act, qui est un gros ensemble de lois qui gère le droit d'auteur au millénaire numérique, comme le dit son nom. Il y a une clause qui interdit l'idée de plonger dans un système informatique et d'essayer de le modifier. C'est-à-dire que ça applique un droit d'auteur à tout le code, en fait, les films, le matériel audio, ou même un appareil que vous avez que vous ne pouvez pas modifier parce que le fonctionnement, enfin l'appareil en lui-même, le code et le matériel sont soumis à ces droits d'auteur et la propriété de la société qui vous l'a vendu. Et l'IFF se bat contre ça depuis très longtemps et a désormais, bah, comme on le disait, commencé un procès pour permettre aux gens de pouvoir modifier un truc qu'ils ont acheté. Alors, bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce que ça rentre dans les questions de DRM et de copie privée et de piratage et aussi de l'idée de pouvoir modifier le code par exemple d'un GPS que vous avez dans votre voiture ou d'un téléphone ou de la voiture elle-même ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on avait tendance à tirer un petit peu du côté trop d'interdictions, je pense, où il y a le danger certainement qu'il y ait trop d'interdictions à ce niveau-là. Donc là encore, je pense que chacun est dans son rôle et c'est bien que l'IFF pointe les choses du doigt, quoi. Est-ce que vous utilisez des banques en ligne? Je sais que Cédric Ingrand nous avait vanté les mérites de Number 26 il y a quelques mois de ça. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont penchés, n'est-ce pas Ulrich?
Oui.
Et donc ils ont une licence sur l'Europe entière, sur l'Union européenne en entière. Ils s'appellent désormais N26. Mais je ne sais pas si c'est un domaine, la fintech, c'est un domaine qui est populaire partout, aux États-Unis aussi. J'imagine que ça bouge beaucoup, ce genre de choses.
Oui, il y a eu énormément d'investissements faits dans le monde des emprunts, donc que ce soit les emprunts pour les étudiants. Donc aux États-Unis, tu vas emprunter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour aller au collège, puisque ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Et donc il y a plein de startups qui se sont montées, qui sont valorisées à quelques milliards de dollars, des boîtes comme Sofi par exemple. SOFI, tu vas avoir beaucoup de ce qu'on appelle les robo-advisors, donc les gens qui vont placer ton argent basé sur des algorithmes comme Wealthfront ou Betterment. En termes de banques en ligne, il n'y a pas vraiment d'offres particulières puisque toutes les grandes banques ont des offres en ligne qui ne sont pas forcément super évoluées au niveau tech. Non, tu n'as pas le numéro 1 de la banque en ligne qui s'est créé en tant que start-up. C'est plus autour des services financiers que des choses ont été faites.
C'est marrant parce qu'effectivement, Number 26, il y en a d'autres, hein, enfin N26 maintenant, a lancé je sais pas si c'est eux qui l'ont lancé, mais il y a en tout cas un succès certain sur cette idée de numériser la banque entièrement. Et Ulrich, t'en es satisfait toujours?
Ouais, j'en suis toujours satisfait. J'ai des petites anecdotes marrantes. Par exemple, j'ai voyagé aux États-Unis pendant 3 semaines avec. La première chose qui est marrante, mais qui fera moins marrer les restaurateurs, c'est que par exemple, les tips dans les restaurants n'étaient pas facturés. Donc en fait, on avait la première empreinte qui payait la note. Mais dès qu'il y avait la seconde empreinte pour payer les tips, en fait, ça passait pas.
Ah merde.
Donc, je me suis aperçu au bout de 2-3 restaurants que je payais pas les tips, en fait. Alors, je pouvais mettre n'importe quoi sur la feuille, mais ça les versait pas. Donc, au final, je les ai donnés en cash, quoi. Et ça, c'est la petite anecdote. Et l'autre anecdote, c'est que je me suis fait pirater mon compte Number 26.
Aïe.
Et donc, 3 semaines après mon retour en France, un vendredi après-midi, je vois une note pour de l'essence au Mexique.
Et en plus, ah, mais c'est pas piraté, il y a quelqu'un qui t'a copié ta carte.
Ouais, quelqu'un a fait une copie de la carte. Ouais. Et c'est assez marrant parce qu'en plus, je connaissais pas du tout le taux de change du dollar mexicain et genre, je vois genre 43 000 dollars.
C'est dollars ou c'est des pesos?
C'est des pesos. Ouais, je crois que c'était
pesos.
Ouais, pesos. Bon, bref, il marquait, il y avait un peu le sigle dollar, donc ah, j'ai vraiment eu peur sur le coup. J'ai remarqué que ça faisait genre 60 euros, un truc comme ça. Et en fait, ça a été bloqué par le système automatiquement. Et il m'avertit en temps réel. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que la carte avait été volée. Donc en fait, j'ai même pas eu quelqu'un en ligne. J'ai commandé une nouvelle carte gratuitement et l'autre, j'ai dit qu'elle avait été volée. Elle a été détruite instantanément.
D'accord. Ah oui, donc bon, au moins, ça s'est bien passé, quoi.
Ah, ça s'est très bien passé. Mais je pense à Société Générale, ma banque traditionnelle, j'aurais eu le même système, mais avec quelqu'un qui m'aurait appelé, en fait. Mais...
C'est un système, c'est la carte de crédit avec tout le système anti-piratage, anti-fraude qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est ce que tu décris, c'est ce que fait Amex au jour le jour. Parce que, malheureusement.
Sauf qu'on on le sait en temps réel sur Number 26. Vraiment, ça apparaît en temps réel sur le téléphone. On voit la transaction qui a été bloquée. Donc bah, à ce moment-là, on peut agir sur...
Amex te fait la même chose.
Amex fait la même chose, je savais pas. Mais en tout cas, bon, c'est une petite anecdote assez marrante, mais je l'utilise tous les jours en tant que compte, en compte annexe à mon compte principal, pour toutes les petites dépenses, que ce soit à l'étranger ou en France. Ça marche très bien. Beaucoup de gens l'ont utilisé au Japon pour des voyages. Pareil, ça marchait très bien pour retirer de l'argent. Et je l'ai fait un peu adopter à mes amis et à ma famille. Et donc, c'est aussi pratique pour faire des transferts d'argent immédiat entre comptes quand on doit se rembourser des choses. De ce point de vue-là, je suis hyper content. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de banques françaises qui sont en train de lancer des vraies initiatives de banques mobiles. J'ai vu passer des appels d'offres autour de ça. Donc, ils veulent lancer des marques qui vont être pas des marques en ligne, mais des marques mobiles, des banques mobiles. Et enfin, on a Orange qui commence à mettre les bouchées doubles pour pouvoir déployer son service Orange Cash, qui est en fait la banque Orange, Orange Bank même. Et c'est intéressant de voir du coup ce qui se passe en Europe et en France sur tout l'aspect banking, où je pense qu'il va y avoir des grosses campagnes d'acquisition pour des nouveaux services, parce qu'il va y avoir du mouvement de clients dans les prochains mois.
Peut-être qu'on va avoir des offres spéciales pour passer d'une banque à l'autre comme on les a sur les téléphones mobiles. Ouais.
Exactement, c'est fou de se dire que d'un côté, ils te facturent des nouveaux frais sur tes banques, les banques traditionnelles, et de l'autre côté, tu as des services qui sont encore moins chers que des banques en ligne qui arrivent. Quoi.
Ouais. Ok, Jeff, un autre truc à rajouter ou on passe à Apple Pay?
Non.
Eh bien, Apple Pay est en France. Est en France, mais bon, c'est que sur quelques banques. Hein. Donc, je ne sais pas si les gens sont déjà à fond sur Apple Pay. Je crois que c'est pas non plus l'excitation la plus totale, mais c'était
non, c'était sympa en fait de pouvoir payer avec son téléphone ou son Apple Watch. Mais bon, tu vois aujourd'hui quand les gens payent à la caisse, je veux dire, ils sortent leur carte de crédit, puis voilà quoi. De façon complètement anecdotale, c'est-à-dire que sans avoir de chiffres à l'appui, c'est très très rare que tu vois des gens sortir leur téléphone pour payer, quoi. Même à San Francisco.
Ouais, à vrai dire, moi, le truc, je crois que j'en avais déjà parlé, mais le truc qui m'a surpris, c'était à quel point le paiement sans contact avec la carte bleue pour les sommes de moins de 20 euros, à quel point ça m'a convaincu. J'étais sûr que c'était débile, que ça servait à rien, que j'en voulais pas. Et en fait, maintenant, quand je dois mettre ma carte pour taper le code, ça m'emmerde, quoi. Je me dis vraiment, oh, pour 5 euros, ça va. Peut-être que je dirai plus ça quand je verrai 12 000 pesos de voler parce qu'il y aura les 5 euros de machin. Mais...
Non, mais tu sais, on m'a fait une copie de ma carte parce que je l'ai donnée hein, pour payer au restaurant mexicain.
C'est oui, pas mais, que ça, mais hein. le truc, c'est qu'avec le problème, la question avec le paiement sans contact, c'est que peut-être que tu peux récupérer les données sans contact en étant à côté de la personne.
Effectivement, mais je pense que le risque est beaucoup moins grand que se faire voler ses chiffres dans un restaurant américain.
Oui, sans doute. Ou même que de se faire voler ses chiffres quand tu payes sur un truc en ligne, quoi.
Ouais, voilà.
Les montres, les smartwatches se vendent de moins en moins bien. Enfin, non, j'exagère. Hein. Mais il y a en fait les résultats sur l'année. Le marché des smartwatches a décliné un petit peu, sauf pour Apple qui se maintient. quand même, mais il n'empêche, c'est pas la joie pour les. Pardon, qu'est-ce que je raconte ? C'est pas sauf pour Apple, c'est au contraire Apple qui va beaucoup moins bien. Excusez-moi.
Donc voilà, Apple. C'est ça, ouais, c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Ouais, moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas vu ça.
Non, c'est ça. Ah, il est tard, on enregistre un petit peu tard, je suis fatigué.
Tu as vu le nombre de modèles de montres connectées qui sont sortis cette année ? Il y a quasiment rien, c'est comme le nombre de tablettes. Hein. Ça, j'exagère, ça se compte pas sur les doigts d'une main.
C'est le marketing presque. Apple qui a corrompu Patrick. Tout va bien.
Ouais, c'est
tout
ça.
Va bien.
C'est ça. Non, chez bien. Apple, tout va bien. Non, bah, effectivement, ils sont
Apple,
à.
Apple, c'est la catastrophe. Pardon.
Moins 55% sur les Apple Watch. Bon, maintenant, l'Apple Watch, elle est sortie il y a un an et demi. J'imagine qu'ils auront un deuxième modèle à présenter à l'automne à un moment. Mais, c'est sûr que c'est pas non plus la grande joie, quoi. Et ça confirme une fois de plus, ce sentiment qu'on avait tous, je pense, que, oui, elle est sympa pour ceux qui aimaient déjà les smartwatches avant ou qui étaient intéressés par l'idée, mais ils n'ont pas réussi à convaincre d'autres personnes et de nouveaux clients. Donc,
Tu sais, je parlais avec quelques analystes d'Apple il y a encore 3 mois et ça va vraiment être l'année, je pense, catastrophique d'Apple. Mais ce qu'ils me disaient, eux, c'est que l'année prochaine, ça ira mieux parce qu'on la comparera à cette année. Mais ils voient comme ça, hein, les analystes. Hein.
Vraiment, c'est
pas mal. Alors, pourri. Ben, l'année prochaine, ça va être mieux, mais ce sera pas aussi pourri.
C'est ça.
Ouais, parce qu'on compare à Y-1.
Ouais.
Non, mais surtout,
ouais.
c'est le fait qu'il n'y a pas de produit qui est là pour remplacer l'iPhone. C'est tout.
Il n'y a aucun relais de croissance.
Et donc, c'est un gros problème. Tu vois aujourd'hui des annonces à propos de la voiture Apple, et tu te dis, bon, ok.
Donc ouais, mais
c'est pas excitant, pour tout de suite déjà, et puis bon. Mais moi, je crois que l'iPhone 7, c'est-à-dire pas celui de cette année, mais de l'année prochaine, ils vont faire un gros ramdam, et je pense qu'ils ont un truc sous le coude qui continuera, mais ça restera l'iPhone qui est déjà un marché établi, ouais, et qu'ils doivent maintenir, qu'il est difficile à faire grossir.
C'est un marché difficile à révolutionner aujourd'hui.
Ouais, donc effectivement, la montre n'était pas. Enfin, franchement, la montre n'était ce nouveau relais de croissance que dans les fantasmes des plus fervents défenseurs d'Apple. Je crois que.
Mais c'est sûrement la plus belle montre du marché. Hein. Ils ont quand même réussi ça. Hein.
Oui, elle est pas mal. Elle est bien.
Tous les produits. Hein,
mais c'est ça le problème. C'est comme si l'iPhone à l'époque s'était contenté de se vendre aux possesseurs de comment il s'appelait de Sidekick et de BlackBerry. Ils ont fait beaucoup plus que ça, donc c'est là que c'était intéressant. Là, les montres n'ont réussi à se vendre qu'aux gens qui étaient ou auraient pu être intéressés par le marché limité des smartwatches. Ils sont pas allés au-delà, donc on verra. Nvidia, on en parle décidément régulièrement depuis quelques semaines, quelques mois, avec leur nouvelle architecture, leur nouvelle carte. On parlait la dernière fois, je crois qu'on en a parlé dans le rendez-vous tech, mais de la carte 1060, qui est la GTX 1060, qui était la version entrée de gamme de leur nouvelle architecture en carte graphique, qui coûte autour de 250 €. Et bien là, il y a l'autre extrême. On a la Titan X qui est disponible le 2 août aux États-Unis et qui coûte $1200 avec 12 gigas de RAM. Donc, si vous voulez une carte graphique qui coûtera à peu près le prix d'une voiture Apple et qui sera capable de faire décoller votre PC comme une sorte de fusée Ariane, vous pouvez investir 1200 dollars, sans doute euros, dans une.
Mais en plus, on peut faire les estimations en euros, mais on sera plutôt vers les 1300, peut-être jusqu'à 1400 €, en plus. Vu comment ils ont fait les conversions de prix sur les derniers produits.
Bah, c'est toujours le cas avec les charges qui sont plus élevées. Et puis là, c'est souvent le prix hors taxe. Donc, forcément.
Mais c'est un beau bébé. Hein.
Ah bah oui, forcément. Pour ce prix-là, elle a intérêt à être puissante. Hein, mais elle est 60% plus rapide que la précédente Titan X. Donc, c'est dire.
Tu sais, ça me fait ce matin, on l'a testé, un nouveau service qui arrive, qui s'appelle Blade Shadow. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, c'est une startup qui a fait quelques levées de fonds et qui veut nous vendre du cloud computing, et plutôt du cloud gaming. En fait, tu loues ton PC et c'est un PC distant.
Ah oui, bah c'est comme OnLive, tous ces trucs, quoi. Ah, et tu streams la vidéo.
Non, mais là, tu loues carrément un PC. Tu peux
ah,
en faire
ce que
tu veux.
Ah oui, d'accord.
Et non, il t'envoie pas le PC, mais tu loues le PC dans le sens où de la machine t'appartient et tu peux faire du Photoshop dessus, etc. C'est pas seulement lancer des jeux sur des racks. C'est plutôt avoir une machine qui t'appartient, mais à distance. Et ils ont une techno qui te promet zéro latence. Et on a pu le tester en jouant à Overwatch dessus. Et c'était très bluffant. Et ils vont te le vendre sous deux formes différentes, soit un petit boîtier tout petit qui est équipé d'un Atom et qui a seulement un port Ethernet, du HDMI et quelques USB, et ils peuvent te sortir de la 4K à 60 images par seconde avec une latence de 10 millisecondes pour jouer à Overwatch. Je sais pas si tu te rends compte que c'est quand même largement suffisant.
Ouais, il faut que ta machine puisse le faire, enfin ta connexion puisse gérer ça.
Voilà, il faut de la fibre optique, et eux en démo, ils avaient pris un vieux PC qui aurait jamais pu faire tourner Overwatch, et là tu pouvais y jouer dessus comme si tu jouais sur une machine avec une 1080, parce qu'ils ont équipé leur machine à distance de GTX 1080. C'est vraiment intéressant, et ils pensent ils n'ont pas annoncé de prix, mais ça serait entre 30 et 40 euros par mois. Tu aurais une machine Intel i7 avec un 1080 et tu pourrais y jouer sur quasiment tous les écrans.
Et est-ce qu'il te... Et tu peux te loguer dessus de n'importe où, j'imagine.
Tu peux te loguer n'importe où. C'est comme un PC à distance, en fait.
C'est marrant, c'est un... Quand t'as commencé à parler, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore, vraiment, ce que les gens ont inventé, machin. Et puis, plus tu en parlais, plus je me disais, mais... En plus, j'imagine qu'ils te le maintiennent à jour, je veux dire, ça sera 40...
Et surtout, tu peux le faire évoluer à la volée via une interface, un peu comme ce que proposent certains hébergeurs. Et en fait, ils ont une promesse dans leur abonnement, qu'on connaît pas encore vraiment le prix, mais leur solution est de jamais dépasser 16 millisecondes de lag, de latence. Ce qui garantit une vraie expérience de jeu,
mais
même sur des jeux.
Coup, ouais, non, effectivement, c'est intéressant, et puis c'est intéressant parce que t'as pas... Mais il faut quand même que tu... C'est un PC qui est dans leurs locaux, et tu as ton PC dans leurs locaux.
Non, en fait, ils ont des racks qui vont distribuer la charge et les ressources.
Ah bah oui, c'est ça. Donc ils te disent c'est l'équivalent de telle puissance, mais tu as quand même c'est des racks de serveur, quoi.
Et ça se trouve il y a de la Titan X derrière. Peut-être. Ils disent que c'est de la 1080, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu fait le.
Mais du coup, alors attends, non, mais parce que c'est hyper intéressant, mais j'ai 1000 questions qui me viennent, je vais juste en poser une ou deux. Mais du coup. Tu dois quand même le maintenir comme ton PC normal. Tu dois installer les logiciels, tu dois faire les mises à jour de Windows, tu dois...
Effectivement.
Etc., etc.
Ouais. Par défaut, il t'installe un Windows 10, et derrière, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux faire du Photoshop, etc. C'est vraiment un PC qui t'appartient, mais qui est dans un rack, quoi.
Et qui est loué pour une certaine somme.
Voilà, ouais, je crois que les estimations de prix sont entre 30 et 40 euros par mois, mais à ce prix-là, t'as du Core i7 avec l'équivalent d'une GTX 1080. C'est assez marrant parce que dans leur démo, ils avaient mis deux PC portables, sûrement des PC portables que tu peux acquérir pour 500 euros sur le marché, qui sont capables de faire tourner Overwatch, mais très mal. Et donc ils avaient mis une machine avec Overwatch et qui tournait directement sur le PC, et l'autre où il tournait via le client donc de Shadow, et les performances avaient été juste hallucinantes entre les deux machines qui sont exactement les mêmes, quoi. En tout cas, les deux journalistes qui sont partis tester et étaient méga impressionnés par cette techno. Il faudra voir maintenant ce que ça donne en produit final, quoi.
Blade Shadow, très bien. Ouais. Eh bien, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui va devenir une shadow, puisque Jeff doit nous quitter, me dit-il.
Allez,
non, mais l'humour est une de mes grandes qualités, on le sait bien. Merci. On est presque à la fin, mais je sais que le Lake Tahoe n'attend pas. Donc, merci beaucoup, Jeff, d'avoir été avec nous une fois de plus.
Eh ben, c'est un grand plaisir de participer avec vous pendant cette émission pour une heure et quart, pour une fois.
Magnifique.
J'ai noté dans mon calendrier que le 12 décembre, le 12-12, c'est le RDV 200. Donc, je ferai tout. Pour participer.
Pour être là. Très
et
bien.
Et puis, je vous souhaite un bon mois, des bonnes vacances pour ceux qui ne les ont pas encore prises, et puis on se retrouve à un moment au mois d'août.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Jeff. Bonnes vacances.
Allez, ciao, ciao.
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 Ouais, donc écoute, Blade Shadow, je le garde dans un coin de mon esprit. Voilà. Concluons avec quelques news qui restent. Google a créé et a proposé pour le consortium des emojis, des femmes au travail pour une question de diversité. On sait que la question de la représentation des femmes dans la tech et dans le jeu vidéo est beaucoup discutée. Et c'est marrant parce que j'ai vu donc ces emojis avec des femmes. En fait, c'est les emojis de métier qui... Je j'ai pas l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais c'est généralement représenté que par des hommes. Et maintenant que on peut avoir des milliers d'emojis, il y a pas de raison de se priver. Et au début, on peut se dire ça va, qu'est-ce que ces conneries, machin, pourquoi pas, enfin ça va, on n'a pas besoin de faire tout ce genre de truc pour tout le monde. Mais quand on les voit ensuite, c'est un peu... Enfin, je sais pas, peut-être que les différentes personnes vont réagir différemment, mais c'est vraiment, pour moi, la réaction, c'est mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on aurait que médecin qui serait une image d'un homme, tu vois? Ou, je sais pas, moi, prof, ou chef cuistot, ou réparateur, tu vois, le mec avec sa clé à molette, ou... Pourquoi est-ce qu'on aurait ça qu'avec des mecs? Je sais pas, c'est...
Non, mais t'as raison. C'est fou de se dire que les stéréotypes ou les préjugés ou la culture fait que on a tendance à voir les choses comme ça, mais qu'on peut pas le voir dans une autre façon, en fait. Mais c'est un peu, moi, ça me fait marrer, c'est que à chaque fois, je travaillais un moment avec un committee manager et on utilisait beaucoup les emojis dans ses messages et t'as vu sur iOS, on peut choisir la couleur de peau de l'emoji.
Ouais.
Et lui avait toujours un malaise en choisissant la couleur de peau, il finissait toujours par choisir la couleur jaune.
Ouais.
Qui est la couleur par défaut.
Ouais, pardon.
Qui est la couleur par défaut, quoi, qui est proposée.
Ouais, non, mais moi aussi, tu sais, ça me rend un tout petit peu mal à l'aise, mais en même temps, je sais que il y a des gens qui disent, ah oui, mais bon, jaune, c'est la couleur de personne, donc c'est vrai que ce jaune-là, c'est la couleur de personne, donc c'est neutre. Mais en même temps, tu sais, je me dis, il y a quand même on parle de représentativité, et puis il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte du fait que c'est un problème, parce qu'ils se voient, entre guillemets, partout. Quand tu regardes, quand tu fais pas partie de ces gens qui sont sous-représentés, que ce soit de ces ethnies ou du genre, a priori il y en a qu'un, mais encore que il y a des questions similaires qui se posent sur les LGBT, etc. Mais quand tu fais partie des gens qui sont pas sous-représentés, tu te vois partout. Donc moi, ça me pose pas de problème parce que je vois des hommes blancs partout, donc je me sens pas. Mais si peut-être que des gens pourraient venir en témoigner pour me dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que si j'étais arabe ou noir et que je ne voyais pas, que je ne puisse pas envoyer un message, tu vois, avec une photo de un mec noir, ça serait bizarre si j'étais noir. Je me dis, c'est pas moi, tu vois. Je sais pas, je m'exprime pas bien, je suis désolé.
Non, mais c'est marrant. Mais tu sais, il n'y a pas que ça, en fait. C'est marrant parce que pour moi, les emojis, c'est vraiment une source de quiproquo.
Ouais.
Quand j'utilise des fois un iPhone et des fois un Android, et j'ai l'habitude d'utiliser certains emojis, et je m'aperçois qu'en fait, en fonction de l'OS, ils sont pas pareils. Alors des fois, par exemple, Apple, ils en ont un, par exemple, qui est une émotion. En gros, ça doit être un gros sourire, mais chez Apple, on se demande ce que c'est, en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de rager. Alors que chez Google, c'est un grand sourire, tu vois. C'est très marrant de voir différentes émotions en fonction de finalement la même chose. Enfin, les quiproquos sont énormes, quoi, avec les emojis. Mais...
Ouais. Bon, enfin bref, j'avais trouvé
malentendu,
ça intéressant.
Malentendu, les quiproquos, quoi.
ouais. Mais j'avais trouvé ça intéressant, cette histoire avec les... Et finalement, on en a tellement des emojis possibles. Pourquoi se priver, quoi? C'est ridicule.
T'as vu la solution de Google, c'est de transformer les emojis avec ta tête. Je sais pas si t'avais vu
ça. Ah non, j'avais pas vu ça, non. Tu fais ta tête et puis ça crée un emoji à partir de ta photo.
Ils sont en train de tester ça. Par exemple, tu t'écris ça a l'air cool, la technologie de Facebook elle va chercher une photo de toi qui exprime cette joie, quoi.
Ah, pas mal, c'est pas bête. Peut-être que ça réglerait le problème, effectivement, une fois pour toutes. Il y a un autre truc qui était intéressant, qui était marrant, que j'ai vu passer, c'est un chercheur qui a, enfin une équipe de chercheurs qui ont créé en fait des messages qui sont à la limite entre qui s'adresse en fait aux assistants virtuels comme Siri, Google Assistant, Cortana, etc. Et qui vont hacker ces assistants avec des messages qui sont des commandes vocales, mais qui sont à la limite entre une voix humaine normale et une voix tellement déformée que l'ordinateur va le comprendre, mais nous, on aura du mal à entendre ça. Et ce qu'il disait, c'est qu'on peut faire passer comme ça des messages et des commandes à des assistants virtuels sans que les gens qui les entendent s'aperçoivent que c'est des commandes. Alors, dans ce qu'on entend là, c'est pas bête, hein.
Et pas que des commandes, hein. Tu sais, il y a eu tout le débat autour de la communication chez les terroristes. Pas chez les terroristes, mais dans les organismes comme on peut voir. En fait, la façon dont ils peuvent communiquer sans être détectés. Et ils parlaient de ça déjà à l'époque. On en parlait l'année dernière, quoi.
Ah bah écoute, ça j'en ai pas entendu parler spécifiquement.
Pas entendu parler, t'as dû entendre parler sur les jeux vidéo, en fait, par exemple. Comment
ah
vous arrivez
oui, bien sûr.
Une façon de communiquer. Bah, en fait, c'est exactement la même chose.
Bah oui, oui et non. Disons que là, l'idée, c'est de hacker ton appareil par oui. la voix, enfin par les commandes vocales. Et il disait, par exemple, on pourrait imaginer une utilisation qui cacherait cette commande dans une vidéo YouTube, c'est-à-dire que t'as un petit peu de bruit de fond, de machin, et puis ça lance une commande et ton téléphone que t'es pas en train de regarder, il s'active un petit peu plus loin dans la pièce parce que tu l'as posé là. Et il fait quelque chose. Alors ensuite, faut voir ce que peuvent faire les commandes et c'est juste un domaine de recherche qui est intéressant. Mais j'avais trouvé ça vraiment surprenant. Et encore une fois, on se dit que le hacking, ça peut vraiment passer par n'importe quoi, quoi. C'est vraiment c'en était un bel exemple, quoi.
Tu sais, moi, on s'amusait à un moment. On l'a tous désactivé maintenant à la rédaction. On s'amusait à crier OK Go quand on rentrait dans la rédaction. Et t'avais plein de téléphones qui s'activaient sur les tables.
Bah, c'est en fait la solution pour moi, c'est que les téléphones reconnaissent notre voix. Normalement, Siri commence à faire ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres appareils, mais on peut l'entraîner pour reconnaître notre voix spécifiquement.
Ouais. Si c'est le cas aussi chez les autres.
Mais ouais. Donc ça serait la bonne solution, quoi. C'est il ne répond qu'à ta voix, donc ça règle le problème. Encore des nouvelles sympas. Nintendo qui va mettre en vente sa NES. C'est encore Jean Coco qui nous a lié ça dans le Reddit. D'ailleurs, entre parenthèses, merci à Notmika, des Vignerons et à d'autres qui sont venus animer le Reddit du Rendez-vous Tech avec des liens et des upvotes ou des downvotes. Merci à vous tous. Et donc, il y a la NES Mini, la Nintendo Entertainment System Mini qui arrive en novembre avec 30 jeux préinstallés. En fait, c'est un boîtier qu'on branche sur sa télé qui a une forme de toute petite Nintendo Entertainment System et qui a 30 jeux préinstallés. On peut brancher la manette dessus et y jouer. Ça devrait pas coûter trop cher, autour de 60 ou 70 euros, j'imagine, peut-être un poil plus.
Ouais, c'est déjà en précommande. Bon, j'en ai précommandé une, si on peut faire la même chose avec un Raspberry Pi pour beaucoup moins cher, mais ce qui m'a plu, c'est que c'est un peu le truc packagé, quoi. On peut même utiliser des manettes de Wii dessus, si je me trompe pas, il y a la connectique pour.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les manettes, c'est le port de la manette qu'on peut brancher dans la Wiimote. Donc je sais pas si ça, ça peut se brancher ailleurs, mais ouais. Et puis c'est livré avec une manette en plus. C'est les manettes classiques de la
Mais c'est pas livré avec l'adaptateur USB, c'est marrant.
Non.
Il faut l'acheter à côté.
Non, mais je crois pas qu'il y ait d'adaptateur USB pour ça.
Si, en fait, ça marche.
Ah oui,
je crois que l'alimentation est l'USB et ils mettent qu'elle est pas livrée avec. Un peu comme la Nintendo 3DS aujourd'hui.
L'alimentation n'est pas livrée avec ?
Non, l'alimentation n'est pas livrée avec, mais c'est juste
de
l'USB.
Il faut brancher
en fait.
Un USB, d'accord, ok. C'est un peu cheap, ça, mais en même temps,
Sega a fait la même chose aujourd'hui, en fait.
Oui, bah, c'est pas Sega directement, mais effectivement, il y a la Genesis, c'est un partenaire, tout à fait. Ouais,
c'est marrant comme initiative, en tout cas.
Ouais, bah, c'est vraiment le genre de truc dont tout le monde sait qu'il va s'en servir 3-4 fois, et encore. Et pourtant, c'est suffisamment bon marché avec le facteur nostalgie pour se dire « Bon, allez, j'en prends une quand même, ça va être marrant. »
Et si c'était ça, la croissance de l'audio de la bourse de Nintendo, tu crois?
Ouais, ça paraît un peu probable, mais bon.
Ouais, moi aussi.
Et enfin, le dernier lien qu'on nous a envoyé, que j'avais trouvé marrant, pour conclure cet épisode sur la modernité et le progrès, c'est le dernier fabricant de magnétoscope VHS qui s'appelle Funai. C'est une entreprise japonaise qui va arrêter la production de VHS à la fin du mois. Certains d'entre vous se disent peut-être comment il y avait encore un fabricant de magnétoscope VHS.
Et d'autres qui doivent se dire c'est quoi une VHS.
Ouais, d'autres qui doivent se dire voilà exactement parce que VHS quand même. Mais voilà, c'était le dernier fabricant et c'est terminé. Il n'y aura plus de production de nouveaux magnétoscopes VHS. Bon, je suis sûr que vous pourrez en trouver quand même en seconde main, mais voilà, c'est terminé. Les VHS, c'est la fin de quelque chose. Je sais pas de quoi.
Je pense qu'il y en a plusieurs millions sur le marché encore.
Oui, je pense que ça va encore.
Je crois que j'en avoir 3 ou 4.
C'est vrai.
Non, je pense dans la cave ou je sais pas où.
Certainement, oui. Bon. Eh bien, en tout cas, voilà pour notre épisode du Rendez-vous Tech. On a passé un bon moment ensemble. C'était fort sympathique. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de se quitter, Ulrich, est-ce que tu peux nous dire... Il y a plusieurs sujets qui venaient de Numérama, d'ailleurs. Donc, j'espère que ça t'aura fait plaisir.
Mais
on
Numérama,
peut te retrouver sur Internet.
On peut en trouver sur Twitter principalement, c'est là où je passe beaucoup de temps, donc Ulrich Rosier. Et puis on peut me retrouver un petit peu, une façon un peu différente, un peu mon âme sur Numérama et Frandroid, parce que je suis derrière les équipes, qui sont quand même 18 personnes aujourd'hui à plein temps. On se rend pas compte comme ça, mais il y a du bon monde.
18 personnes à plein temps.
Ah ouais, on a 5 journalistes humanoïdes, 5 Numérama, et la technique et du commercial, quoi.
Je t'avoue que je suis impressionné. Je pensais pas que c'était autant de monde à plein temps, quoi. Parce qu'on on est tellement dans un monde où les gens justement font de la pige ou écrivent en électron libre, tu vois. C'est
nous on a une stratégie où on internalise beaucoup les ressources pour mieux les maîtriser, pour mieux acquérir plus de compétences en interne, c'est tout. Et Numérama, ça va faire un an en octobre. On l'a relancé et on est super content. Pas seulement l'audience, mais aussi de croiser des gens qui lisent régulièrement et qui sont contents de la ligne éditoriale, de la qualité, qui sont surpris par des articles. Par exemple, on a publié un article sur The Next Web, on l'a rencontré un des fondateurs de The Next Web, un média anglophone, et qui nous parle de sa stratégie. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un média aujourd'hui qui s'en fout de faire de la pub et qui a même pas d'abonnement et qui peut quand même en vivre très bien grâce à l'événementiel derrière. Et c'est marrant parce qu'un média qui a la moitié de son audience américaine, mais qui est capable quand même d'écrire fuck dans un article, même si ça déplaît à tous les Américains.
Intéressant, en effet.
Numérama, c'est sur The Next Web. C'est Julien Cadeau qui a rencontré Amsterdam, si je ne me trompe pas, le fondateur, un des fondateurs. Et c'est assez impressionnant de se dire que cette boîte est européenne
et qu'elle organise
les plus grosses
conférences.
Ouais, c'est européen et qui organise quasiment les plus grosses conférences tech et qui est omniprésent sur la scène tech, quoi. C'est assez hallucinant. Et c'est côté américain et côté européen, mais ils ont décidé de s'installer en Europe pour diverses raisons. C'est écrit dans l'article, mais c'est super intéressant l'article. On apprend énormément de choses et un peu la vision d'un des cofondateurs sur l'avenir de l'informatique. Il explique qu'il en a marre de multiplier les appareils, il en a marre d'avoir des tablettes d'un côté, des montres connectées de l'autre. Il dit qu'on est vraiment à la préhistoire de l'informatique et qu'on sera arrivé à quelque chose quand tout s'effacera et qu'on n'aura plus besoin d'avoir de support de communication, mais qu'on aura juste besoin d'évoluer avec l'informatique comme si elle était omniprésente, tu vois.
Une lentille connectée, c'est très bien. Moi, j'ai déjà des lentilles, donc ça me changera pas trop.
Mais sa façon va très bien dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le machine learning, parce qu'il explique qu'en fait, l'informatique, elle doit s'effacer pour en fait aider l'humanité à se développer, tu vois. Et elle doit s'effacer.
Ok, d'accord. Tu mets un petit truc dans l'oreille et c'est voilà.
Non,
ça,
mais même
mieux.
Beaucoup plus loin, même voir comment dans nos services de tous les jours, dans les biens qu'on consomme, dans la façon de communiquer avec les gens, comment elle peut. Ça m'a fait penser un petit peu à Google quand ils ont présenté leur plan autour des chatbots lors de la Google I/O dernière, comment la technologie s'inscrivait dans la conversation entre deux personnes physiques en par exemple t'aidant en faisant toutes les actions qu'elle comprenait à travers le langage naturel, la réservation d'un restaurant, la recherche des films qu'il y avait au cinéma, etc. C'est des exemples qui sont concrets, mais des fois ça peut aller beaucoup plus loin dans l'intelligence. Et c'est marrant, lui, cette vision d'un futur où on a même où l'informatique s'est effacée parce que elle est venue complètement intégrée à notre façon de vivre.
Bah écoute, on ira lire ça sur Numérama pour en savoir un petit peu plus. Je te remercie beaucoup. Et puis pour ma part, bah vous le savez, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et puis vous retrouvez les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Et vous avez aussi les autres émissions toujours sur ce site-là, bien sûr, comme le rendez-vous jeu au hasard. Et comme vous le savez, j'en avais déjà parlé deux ou trois endroits. Je fais 2 semaines de break, c'est mes petites vacances début août. Donc je vais essayer, on va voir si je réussirai, mais a priori je vais essayer de ne pas faire du tout de podcast pendant 2 semaines. Ça va être dur, ça va vraiment être compliqué, mais je vais vraiment essayer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le rendez-vous tech? Eh bien, ne vous inquiétez pas, je file les clés à notre ami Jérôme Kainborg, et il va nous faire un épisode que je pense qui sera d'une immense qualité. Je lui fais une totale confiance. Donc, on va voir ce qui lui sortira et ça sera...
Il va avoir, je pense, une petite série de téléphones canadiens et peut-être un téléphone coréen qui seront dans ces news.
Un téléphone canadien et... Ah, pourquoi? C'est ce qu'il teste sur Nowtech TV, c'est ça?
Non, c'est ce qui va être annoncé dans les prochains jours.
Ah, d'accord, ok. Je croyais que tu faisais une blague sur l'intégrité de Jérôme.
Non, c'est même pas une blague sur l'intégrité de Jérôme parce que bon, je respecte beaucoup Jérôme. Là. Mais non, c'est effectivement les annonces qu'il va avoir. Il va y avoir un peu d'annonces qu'au début août, malgré les grandes vacances, il y a quand même il va y avoir des annonces côté canadien. Il y en a pas beaucoup, et puis côté coréen avec un chouette mobile.
D'accord, très bien. Mais écoute, il faudra suivre l'émission avec Jérôme. J'espère que vous serez indulgent et satisfait de sa prestation. Attendez-vous à beaucoup de jeux de mots d'une qualité douteuse. Je n'en attends pas moins de la part de Jérôme. Et puis une autre chose que je voulais signaler, comme je l'évoquais pendant l'émission à un moment, il y a donc, je prévois de faire normalement en septembre, le 10 septembre si tout va bien, c'est un samedi, une petite rencontre sur Paris, comme je l'avais déjà fait l'année dernière, mais ça sera un petit peu particulier parce que, comme je le disais, ça fera 10 ans, presque jour pour jour, que j'ai commencé les podcasts. Ça avait commencé le 6 septembre 2006 avec le premier épisode d'Azeroth.fr et ça fait effectivement, comme je le disais, 10 ans. Rendez-vous compte, 10 ans, oh là là. Quel chemin
ça
parcouru.
Se fait, ça.
C'est oui, donc il faudra, je sais pas, peut-être que j'amènerai un gâteau ou un truc comme ça. Mais 10 ans, c'était quand je pense à tout ce qui s'est passé, quand je pense à tous les auditeurs qui étaient ce qu'ils faisaient il y a 10 ans ou même il y a maintenant 7 ans, plus de 7 ans quand on a commencé le rendez-vous tech. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, où vous étiez, qu'est-ce
mais
que
c'est
vous...
fou de dire que ça se trouve ce que t'as dit et puis a pu vraiment avoir un impact sur certaines décisions qu'ils ont prises quant à leur travail, etc. ou même le matériel qu'ils doivent acheter, le logiciel qu'ils doivent utiliser.
Peut-être
ça a dû faire pas mal changer.
Si vous avez un truc comme ça, que à quoi vous pensez quand je vous dis ça fait 10 ans ou 7 ans du rendez-vous tech ou 10 ans de podcast, venez sur Twitter me faire un petit témoignage, ça me ferait très plaisir. Vous me faites un petit at note Patrick et vous me dites ce que ça vous a évoqué, cette question des 10 ans.
En tout cas, tu m'as pas mal motivé pour jouer Overwatch et j'avais pas joué un jeu autant depuis que je travaille à plein temps. Ça m'a rappelé les souvenirs d'il y a 10 ans, quoi, où j'étais beaucoup plus engagé sur les jeux en ligne.
Ah bah très bien, écoute, je milite pour le jeu vidéo, donc c'est très bien. Ça a au moins porté ses fruits là-dessus.
Même Pokémon Go.
écoute. Je le testerai. Et puis,
tu sais, j'ai rencontré des voisins que j'avais pas vus depuis que j'ai emménagé. Ouais, j'ai passé Pokémon Go.
Il y a plein de gens qui disent ça, mais. Mais bon. bref, bah, pour nous rencontrer tous ensemble, ça sera le 10 septembre. Je vais essayer de faire ça à un moment en début d'après-midi, parce que certains m'ont dit que ça serait peut-être mieux de le faire en début d'après-midi. Comme ça, si certains veulent venir d'un petit peu loin, ils peuvent venir le matin et repartir l'après-midi et repartir le soir. Ils n'ont pas besoin de passer la nuit sur Paris. Et puis s'ils veulent, ils peuvent aussi, hein, bien sûr. Mais on va voir. J'aurai les détails bientôt. A priori, ça sera le 10 septembre. Je confirmerai ça. Dans le mois d'août, je pense, mais enfin oui, il faudra. Mais si gardez ça dans un coin de la tête, si vous voulez passer sur Paris, ça sera peut-être l'occasion. Et puis bien sûr, comme toujours, vous le savez, cette émission fonctionne entièrement sans pub. Évidemment, il n'y a aucun sponsor. Et c'est grâce à vous. C'est parce que vous financez l'émission, parce que elle vous apporte quelque chose, parce que on vous accompagne depuis 7 ou 10 ans ou ce que c'est, et que vous vous dites que c'est assez sympa d'écouter le rendez-vous tech dans la voiture, en prenant son café le matin, en allant faire son jogging, en faisant les courses ou en faisant la vaisselle, ou en faisant semblant de travailler dans les bureaux, et vous vous dites que bah un petit dollar par épisode, c'est pas grand chose, et puis ça permet à l'émission d'exister, ou plus, hein, moi je prends plus, si vous voulez donner plus, il y a pas de problème, mais voilà. Donc vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, il y a les liens sur le site et dans les notes de l'émission. Ça prend exactement 3 minutes et ça permet à l'émission d'exister. Donc un immense merci à tous les patriotes qui contribuent à l'émission, et merci à tous ceux qui penseront maintenant et à l'avenir. Et puis bien sûr, merci à tous ceux qui écoutent l'émission. Dans 15 jours, c'est Jérôme qui a les clés, et puis il me les rend, si tout va bien, pour l'émission qui viendra 15 jours après. Je vous remercie tous de nous avoir écouter, et je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Bisous à tous.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.